La crypto a eu une année difficile, il est temps de préparer quelque chose pour changer ça. Ce sont les mots du chef de produit de X, anciennement Twitter, qui essaie de relancer un petit peu l'intérêt autour du domaine. On est parti pour l'émission du mardi 14 avril 2026. On se retrouve avec un Bitcoin à 74 400 dollars plus 5% sur les dernières 24 heures, 7,76 pour Ethereum, la seconde crypto-monnaie du marché qui se paie même le luxe de surperformer BTC, que ça soit en hebdo ou en mensuel, en tout cas pour le moment. On a toujours la ligne dans l'intégralité dans le vert également pour Tron. C'est également le cas pour Hyperliquid, plus 7,50, 23 sur la semaine, 20 sur le mois à 45 dollars. Belle perf également pour Chainlink, plus 5%. On a plus 4 pour Canton, c'est également le cas de Avalanche, ainsi que Sui. On descend ensuite jusqu'au top 30, où nous attend un tout nouveau projet, Rave DAO. Je ne vais pas du tout creuser de mon côté. 11 dollars, 2,3 milliards de capitalisation, 4000% sur la semaine, donc faites attention à ceux qui spéculent de ce côté-là. 4% pour Uniswap. On avait également AAV qui reprend pas loin de 5% à 100 dollars tout pile. On a PP à plus 6% et on clôture donc au niveau du top 60 avec du 7% pour Wallcoin, 12% pour Algo, 4% pour Morpho à la 54e place, et on a Ethena qui clôture donc ce top 60 avec juste au-dessus Atom Cosmos et Paul, anciennement Matic, qui sont entre 850 et 900 millions de capitalisation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur les dernières 24-48 heures d'un point de vue de l'actualité? Et bien toujours les tensions géopolitiques, comme vous le savez, entre l'Iran et les États-Unis, avec désormais les États-Unis qui menaçaient eux-mêmes via Donald Trump de bloquer à leur tour le détroit d'Hormuz. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça sera fait? Est-ce que c'est à faire? En tout cas, pour l'instant, le marché ne semble pas y croire. On a l'UK Oil et l'US Oil qui sont en recul, 97 dollars et 98 dollars le baril. Le Russell du côté des low cap américaines qui pump et qui emmène donc droit devant vers un ATH, puisqu'il est à 2734, on a 2670. Le Nasdaq pour la tech américaine en rebond depuis 3 semaines. Là aussi, bien, le marché pour l'instant ne semble pas prendre plus peur que ça outre mesure, mais attention à ce genre de rebond un petit peu erratique. 25 383 pour le Nasdaq, le S&P 500, pareil, à quelques encablures de son ATH qui se trouve à ce jour à 7012 points, on est à 6886. L'Eurostox, qu'il soit 50 ou 600, pareil, en progression de 0,40, donc très très belle progression sur un mois pour l'Europe qui n'est pas en reste. Ceci étant dit, attention, puisque le double effet qui se coule de ce qui est en train de se passer d'un point de vue justement du détroit d'Hormuz et de l'inflation et du choc que ça pourrait conduire d'un point de vue des matières, notamment par la suite dans les prochains trimestres, on n'en voit pas encore toute la profondeur malheureusement, et c'est peut-être ce qu'il va falloir anticiper vis-à-vis des marchés. Donc pour l'instant, on a une Fed, comme on l'a vu dans l'émission de samedi sur les archives de l'architecte épisode 1, qui est un peu le récap de la semaine, qu'on a une Fed qui est restrictive, qui techniquement risque de ne pas baisser du tout les taux en 2026. Et d'un autre côté, eh bien, on a des marchés qui se cherchent un petit peu sur la direction et l'attitude à adopter vis-à-vis de ce qui est en train de se dérouler un petit peu au travers de la planète. Le WPEA et CW28 étaient à l'arrêt hier, en tout cas. On va voir comment ils vont réouvrir ce matin, ça devrait être positif, avec des portions pour le WPEA à 6,19€ pour le monde et le CW8 d'Amundi proche des 615€. Le DXY qui recule 98,3. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de poussée supplémentaire avec un dollar qui reste relativement faible par rapport aux autres monnaies. Le gold, pour sa part, qui a rebondi en zone pile poil médiane hebdomadaire de RSI depuis 4 semaines. Il avait alors presque touché la moyenne mobile 50 à 4100$ l'once et on est désormais à 4772. Donc là aussi, beaucoup de volatilité. On en vient à nos bonnes vieilles crypto-monnaies USDC, USDT face au crypto total, toujours autour de cette zone de 0,11, ça n'a guère bougé, tandis que le crypto total est à 2500 milliards, c'est une zone clé. On a complètement fini d'imprimer ce W que vous voyez très largement ici à l'écran désormais. On est entre la moyenne mobile 200 semaines en bas qu'on a touché sur la mèche folle du 2 avril 2026 à autour de 2000-2100 milliards et on est désormais bloqué, normalement c'est un petit peu le bouchon de champagne ici, entre 2500 et la moyenne mobile 20 qui fait au office justement de bouchon de champagne autour de 2620. Si ça passe, on pourrait rallier quelque part entre 2900 et 3000 milliards. Et on a désormais également la moyenne mobile 50 semaines qui est autour de 3200 milliards. Du côté du Bitcoin, alors les futurs BTC 1 point d'exclamation au niveau du ticker 74 635. Donc là aussi, on est sur une zone de polarité relativement clé. On va voir comment ça va se dérouler d'ici cette semaine, cette fin de semaine. Est-ce qu'on arrive véritablement à déclencher quelque chose d'un peu plus important pour le marché crypto? La dominance toujours stable sur ses appuis à 60%, légèrement en dessous, mais très certainement qu'elle va essayer de rallier la moyenne mobile 50 autour de 60 et plus, tandis que Bitcoin non futur, donc le spot, est autour de 74 370 au moment où j'enregistre cette émission, avec une zone clé entre 75-76 et 77, où nous attend à 77-686 précisément la moyenne mobile 20 à nouveau. On a une autre zone donc, qui est en Fibo à 83,7, la moyenne mobile 100 à 87,6 et la moyenne mobile 50 autour de 96,8. Donc ça nous fait pas mal d'objectifs finalement techniques avant de parler de quelques retournements que ce soit. Mais c'est vrai que les oscillateurs ont quand même annoncé un petit peu en amont de ce qui est en train de se dérouler au niveau du cours la musique. Donc c'est plutôt cool quand ça se passe comme ça. Du côté de Ethereum, c'est exactement pareil, à ceci près qu'on était descendu en dessous de la moyenne mobile 200. On est quand même revenu travailler autour de 1750 pour Ether. On est en train de travailler le cluster dur, donc pour sa part, des 2375 à 2400 plus, puisque on a la moyenne mobile 200 à 2445, la 20 à 2475, et enfin plus haut, on a le milieu de ce micro range dans un très grand range qui est autour de 2800 avec moyenne mobile 100 à 2957 et moyenne mobile 50 juste en dessous des 3100 $. On pourra considérer Ethereum sorti de l'ornière le jour où on travaillera au-dessus de 3400 $. Donc ça fait des gros deltas, bien entendu, en milliers de dollars pour Ethereum, mais on a tellement souffert sur le cycle précédent que rien ne sert de courir, bien entendu. Et comme d'habitude, que ça soit du côté de Bitcoin ou de Ethereum, en fonction de vos convictions, vous investissez petit à petit au travers du temps et théoriquement, ça devrait pas si mal se passer. On a Coinbase qui essaie de raccrocher la moyenne mobile 200. Pour l'instant, c'est un petit peu mou, mais on a le Clarity Act qui est dans les tuyaux, n'oubliez pas. Donc, ça pourrait changer pas mal de choses pour la suite. En tout cas, on a Circle qui, sur cette reprise CRCL, pourrait là aussi mener peut-être quelque chose. La moyenne mobile 20 a été défendue à 85 $. On est de retour proche des 100 $. On aura plus tard un break qui se fera entre 145 et 153 $ pour Circle. Il est à noter également que MicroStrategy, bien que pas mal dégradé, continue d'acheter énormément de Bitcoin et pourrait nous faire un petit quelque chose ici. Donc on est typiquement dans une zone de réaccumulation qui, comme dirait ce bon vieux Tradosor, est une zone de réaccumulation logique pour du long terme, mais tout en ne sachant pas jusqu'où on peut descendre sur cette année 2026. Ça va être ça notre principal problème pour l'intégralité de cette année. On a Oracle qui reprend plus 13%, on a PayPal également plus 5%, Cypher plus 7%, et comme je vous le disais dans les dernières émissions, pour ma part, j'ai commencé à re-rentrer sur Microsoft. On a Robinhood également dans le vert, 3,58, qui depuis 2-3 semaines travaille la moyenne mobile 100, 65 $. Et là, on approche les 72 $ avec un RSI qui était très très bas pour Robinhood. On est venu aux portes de la survente. Le MACD, pareil, est en train de se poser. Donc peut-être les oscillateurs, là aussi, qui nous annoncent quelque chose d'intéressant à observer du côté de Robinhood. Du côté des actions françaises, Total Energy, toujours proche des 80 €, mais avec beaucoup beaucoup de volatilité. Et là, c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir sur l'action précédente. On a les oscillateurs qui sont très hauts, le MACD qui est en train petit à petit de fléchir. Donc comme d'habitude, voilà, peut-être que Total Energy a le jus pour aller à 85-90 et on l'espère tous un jour 100 €. Mais en tout cas, ce mouvement qui a connu son début entre octobre 2025 et par la suite entre janvier 2026, février 2026, l'accélération a déjà été faite pour l'instant. Donc inutile de vous dire que pour ceux qui cherchent des points d'entrée, c'est pas forcément le bon moment. Une petite qu'on n'avait pas passée depuis quelques temps, et vous voyez que quand les réseaux sociaux, il y a quoi, 2-3 mois de ça en arrière, vous disiez ouais, Air Liquide, ça fait plus rien, blablabla, eh bien on était à ce moment précis autour de la moyenne mobile 100-155 €. On est de retour à 187,5 et on est en train d'essayer de faire un beau décollage, un nouvel ATH. Là aussi, les oscillateurs sont très hauts, bien entendu. Donc sur une action comme ça qui progresse en moyenne moyenne à l'année d'environ 8 à 10%, lissé sur des dizaines d'années. C'est pas forcément une fois que le mouvement de cette année est déjà fait qu'il faut immédiatement rentrer sur le titre, mais à partir du moment où régulièrement elle revient coller autour de la moyenne mobile 200, bien entendu que ça en fait des points d'entrée qui sont assez intéressants pour du long terme en tout cas. Du côté des altcoins, comme on l'a vu tout à l'heure, alors on a peut-être Algo qui est en train d'essayer de faire son propre bottom. Ceci étant dit, je vous invite bien entendu à observer les fondamentaux de tous ces projets, à aller voir systématiquement le graphique face au Bitcoin, voire face à Ethereum, voire face à Hype ou Solana, pour essayer de détecter quelles sont les véritables tendances haussières et pas juste des feux de paille. On a Lido qui reprend plus 4%, Hyperliquid, comme on l'a vu tout à l'heure, à 45$ quasiment. Là aussi, on a eu vraiment un truc extraordinaire depuis janvier 2026 où on était à 20$. On vient de rentrer plus d'un fois deux sur Hyperliquid. Personnellement, j'en ai acheté un tout petit peu, un tout petit billet pour la science et on était déjà un peu plus haut ici, quelque part autour de 30$. Mais je me méfie toujours autant et c'est un peu le stress post-traumatique des années passées dans cette industrie crypto, des nouveaux projets qui brillent autant et qui de temps en temps se font défaire aussi vite qu'ils sont montés tout en haut de l'affiche justement. On a le TRX qui se porte également très bien, on a connu un bull run complètement fou pour cet actif Tron, donc avec beaucoup de stablecoins qui sont échangés notamment sur cette blockchain. Le BNB également de Binance se maintient plutôt pas mal, 615$, et c'est également le cas face à BTC, bien que là depuis octobre 2025 on soit un peu plus baissier face à la première crypto-monnaie du marché, c'est aussi à noter. Injective pour ceux qui continuent de le suivre, mais je crois qu'il y avait eu des petits dramas donc à vérifier autour de 3$, pareil on est en train d'essayer de se poser. On avait également Solana qu'on continue de surveiller, là aussi peut-être un point bas en devenir, mais on voit qu'on est plus dégradé que ce qu'on l'est par exemple sur Ethereum aujourd'hui qui essaie de retravailler autour de la moyenne mobile 200, tandis que lui Solana en est en dessous avec cette jonction autour de 104.5 précisément. Ceci étant dit, voilà, quand le marché repartira, ça fait partie des actifs, je suppose, qui seront un minimum portés par ce dernier. Taobi Tensor qui corrige autour de la moyenne mobile 20, mais rien de catastrophique non plus. Et quand on regarde au long terme, c'est pas l'actif finalement en bear market qui a connu le pire de volatilité. Chainlink, pareil, on est en train d'essayer de former un double creux. La zone clé des 9,50 à 10$, peut-être rallier dans un premier temps les 12,46 à 13,40. Et voilà, on a pas mal de chemin à parcourir également pour Chainlink. Là aussi, sur les réseaux sociaux, on voit régulièrement passer que voilà, c'est un actif incontournable, blablabla. J'en suis pas persuadé à aujourd'hui. Certes, d'un point de vue des fondamentaux, on a besoin d'un projet comme Chainlink dans l'industrie crypto, et ça, c'est clair et net. Après, est-ce que son token fondamentalement en bénéficie? Voilà, ça, c'est une autre question. Et on clôturera donc avec AAV au niveau des altcoins, qui est depuis la touchette la semaine dernière des 85-86$ et de retour à 100. On rechangera de nouveau de polarité au-dessus de 115 et surtout, a fortiori, au-dessus de 135, ce qui nous permettrait dans un premier temps de rallier la moyenne mobile 100 à 193$ et la 50 autour de 210-211$. Donc AAV n'est toujours pas mort. On a Stani qui a publié de très belles choses. Donc pour le coup, oui, c'est une vision qui est un peu antinomique avec la décentralisation utopique de l'époque, mais aujourd'hui, on a un projet solide sur ses appuis qui continue d'avancer et n'en déplaise à certains, notamment sur les réseaux sociaux, qui appellent au hack de la V4. C'est complètement débile, j'ai même pas les mots. Eh bien, j'espère bien entendu, spéculateur ou pas, intéressé ou pas à ce projet, que AAV continuera de porter haut sur sa propre paroisse, sur sa propre colline, les couleurs de la finance décentralisée qui peut-être, oui, en l'état, après la régulation, après tout ce qui s'est passé, est un peu moins décentralisée, voire quasiment plus, mais quelque part c'est un petit peu, malheureusement, quand on voit BlackRock avec les ETF et tout ce qui s'est passé ensuite, voilà, le cheminement logique à la suite de cette industrie. Est-ce que dans 5 ou 10 ans, on ne prendra pas AAV comme exemple justement de celui qui a réussi sa transition en 2026 envers et contre tous, ou bien est-ce que AAV se sera fait complètement déliter par ce choix qui aura été par révélation temporelle un mauvais choix? Eh bien, on en saura plus justement que dans les prochaines années. Donc pour l'instant, eh bien, ça a l'air de plutôt pas si mal se passer pour le coup. Et du côté du Japon, eh bien pareil pour le Topix, une belle séance puisqu'on est à 0,73, 3750 points. Donc une économie qui, pour l'instant, quand on observe dans tous les cas ce fameux VIX, l'indice de la peur ou de la volatilité à 20 points, on est sur un support, on n'a pas pris peur et on a un président des États-Unis qui perd du poids des mots dans tout ce qu'il raconte au quotidien, que ça soit positif ou négatif, ce qui en soi n'est pas une si mauvaise chose puisque ça permet malgré tout au marché petit à petit de ne plus croire à tout ce que promet ou ne promet plus justement le président des États-Unis. Et force est de constater que ben, finalement, quand on observe les chiffres, on a une économie américaine qui reste résiliente, mais qui peut-être n'a pas saisi encore complètement toutes les implications que pourrait avoir d'un point de vue mondial tout ce qui s'est passé justement du côté de l'Iran et qui est encore en cours et qui pourrait perdurer comme ça pendant des trimestres. Et au plus longtemps ça perdure, au plus longtemps ça aura un impact par la suite dans les trimestres et les années qui viennent qui sera délétère pour l'économie au sens général du terme. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ce week-end. Ciao, ciao.